RCF.
Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
En Espagne, le Premier ministre devrait annoncer s'il démissionne ou non.
Pedro Sanchez avait annoncé sur ses réseaux sociaux mercredi annuler son agenda public et prendre ses jours de réflexion pour réfléchir à une possible démission. On en parle dans un instant. À Mayotte, l'inquiétude face au nombre de cas de choléra qui augmente. L'ouverture d'une deuxième unité choléra a été annoncée hier. 26 cas ont été détectés depuis la mi-mars. Et puis le directeur général de Total Energy, Patrick Pouyanné, est auditionné au Sénat aujourd'hui. Objectif de la commission, assurer le respect par le groupe Total des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France.
En Espagne, le Premier ministre va sortir de 4 jours de silence aujourd'hui.
Pedro Sanchez a annoncé sur ses réseaux sociaux mercredi annuler son agenda public pour prendre ses jours de réflexion afin de réfléchir à sa possible démission. Le Premier ministre devrait annoncer dans la journée aux médias espagnols s'il démissionne ou non. Une situation d'incertitude inédite causée notamment par l'ouverture d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption contre son épouse Suzanne Marion.
Une enquête est ouverte depuis le 16 avril suite à une plainte du collectif Manos Limpias, main propre en français. Le collectif, proche de l'extrême droite, accuse l'épouse du Premier ministre de corruption dans une affaire qui remonte à la période de la pandémie de Covid-19. Elle est accusée d'avoir détourné des aides de l'État aux entreprises. Jeudi, le parquet a demandé le classement de l'enquête, mais le juge en charge du dossier n'a pas encore dévoilé ses intentions. En fin de semaine, le collectif Manos Limpias a concédé que sa plainte se basait peut-être sur de fausses informations. De son côté, Pedro Sanchez se dit certain de l'innocence de son épouse, mais pense surtout qu'à travers elle, c'est lui que l'on veut attaquer. Il dénonce des campagnes de déstabilisation contre lui et sa famille qui semblent l'avoir usé après 6 ans au pouvoir. C'est pourquoi il réfléchit à abandonner sa place. S'il démissionne aujourd'hui, des élections législatives anticipées pourraient être convoquées 1 an après les dernières élections législatives anticipées de juillet 2023.
Dans le reste de l'actualité internationale, le secrétaire d'État Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, se rendra en Israël et en Jordanie mercredi au lendemain de sa participation à un sommet en Arabie Saoudite consacré à la résolution du conflit israélo-palestinien. Cette tournée a été annoncée après un échange téléphonique entre le président des États-Unis et le premier ministre israélien à propos des pourparlers en cours pour une trêve à Gaza. Le Hamas, lui, n'a relevé aucun problème majeur, je cite, dans la proposition égyptienne justement de trêve avec Israël. C'est ce qu'indiquait l'un de ses responsables à l'agence France Presse. Le Hamas devrait indiquer sa position aujourd'hui concernant cette trêve. Elle veut se poser en leader des conservateurs européens. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a annoncé hier qu'elle se présenterait comme tête de liste de son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, aux élections européennes. Et puis, 7 mois qu'il n'avait pas quitté Rome, le pape s'est rendu hier à Venise, en Italie, pour un déplacement éclair. Il a commencé par visiter une prison pour femmes, où il a demandé de meilleures conditions de réinsertion pour ces dernières. Après cette visite, il a présidé une grande messe en présence de nombreux responsables religieux et politique pour livrer un appel à la paix. Depuis sa visite à Marseille en septembre dernier, le pape François n'avait plus voyagé. Le Vatican a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours que le souverain pontife allait entamer un déplacement en Asie et en Océanie. En France, le record de précipitations de pluie a été battu à Lyon et dans sa région hier. Notez qu'un TER a déraillé à Firminy, c'est dans la Loire. L'autoroute A47 a également été coupée à la circulation et les pompiers multiplient les interventions. En cause du déraillement du train, un éboulement à cause donc de la pluie, 200 personnes ont dû être évacuées de ce train.
À Mayotte, l'inquiétude face au nombre de cas de choléra qui augmente.
L'ouverture d'une deuxième unité choléra a été annoncée hier par l'ARS. 26 cas ont été détectés depuis la mi-mars. Le premier avait été détecté le 19 mars dernier chez une personne venu des Comores, l'archipel voisin où l'épidémie sévit depuis le début de l'année. On fait le point avec Florian Perret.
Eh oui, les dispositions prises à Mayotte n'ont pas empêché l'arrivée de nouveaux cas. Peu après le repérage du premier, 10 cas importés ont été recensés chez des personnes en provenance des Comores. La maladie s'est ensuite développée à Mayotte. Vendredi dernier, 3 premiers cas de choléra autochtone, c'est-à-dire des patients qui ont été contaminés sans quitter l'île, ont été confirmés au nord de Mamoudzou. 2 jours plus tard, le nombre de cas confirmés a bondi, il est passé à 26. Pour rappel, le choléra se transmet par une bactérie, généralement via de l'eau ou de la nourriture contaminée, et la maladie peut tuer en quelques heures. L'ARS annonce d'ailleurs avoir renforcé ses interventions de terrain et créé un centre de dépistage et d'orientation mis en place samedi. Concrètement, les centres de dépistage du choléra fonctionnent comme ceux qui existaient pour le Covid-19. Les personnes qui s'y rendent effectuent des tests antigéniques rapides. Des opérations de vaccination sont organisées sur le terrain depuis plusieurs jours, selon l'ARS de Mayotte. Le député LR de Mayotte, Mansour Kamardi, insiste sur ce point. Il réclame un plan de vaccination général accessible à tous, notamment aux enfants et aux personnes fragiles. Une 20aine de personnes issues de la réserve sanitaire arriveront de métropole mercredi en renfort.
L'Assemblée nationale doit se prononcer tout à l'heure sur un texte appelant le gouvernement à reconnaître comme un génocide les massacres infligés en 1915-1918 par les autorités ottomanes aux Assyro-Chaldéens, une communauté chrétienne originaire de Mésopotamie. La proposition portée par le président du groupe macroniste Renaissance répond à une demande récurrente de cette communauté en faveur d'une reconnaissance.
Le directeur général de Total Energy, Patrick Pouyanné, est auditionné par des sénateurs à 17h.
Une audition dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les moyens de l'État pour assurer le respect par le groupe des obligations climatiques de la France et des orientations de la politique étrangère de notre pays. Une audition qui sera suivie de près, notamment par les ONG de défense de l'environnement. Quelles sont leurs attentes? Je vous propose d'écouter la réponse de Justine Ripoll de l'ONG Notre Affaire à Tous.
On en attend que les sénateurs puissent à la fois confronter Patrick Pouyanné aux scientifiques qui disent que la stratégie de Total de dire on va continuer à développer les énergies fossiles pour avoir des grosses rentrées d'argent et pouvoir financer la transition énergétique, donc les énergies renouvelables. Tous les scientifiques qui ont été interrogés disent que cette stratégie, elle n'est pas crédible et qu'elle n'est pas du tout réaliste et qu'ils décrivent la stratégie de Total plutôt comme une stratégie qui n'est pas du tout compatible avec le respect de l'accord de Paris par l'entreprise, mais aussi par l'État français. Finalement, savoir en fait ce que Total et son dirigeant en pensent et comment ils y réagissent. Et puis surtout, de confronter le dirigeant de Total Energy aux pistes de solutions que l'État pourrait prendre justement pour soit s'assurer que Total Energy opère bien une transition, soit que l'État vraiment accompagne cette transition et pour qu'elle soit beaucoup plus rapide.
Et Lucie, au chapitre social, la liquidation judiciaire de Raycop devrait être prononcée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Cahors.
L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire en octobre 2023. Née en 2019, Raycop avait pour projet de relancer les lignes de train du quotidien, à commencer par la liaison Lyon-Bordeaux, sans passer par Paris, une ligne abandonnée par la SNCF il y a 10 ans, à travers le modèle de la société coopérative d'intérêt collectif pour associer les collectivités locales notamment. Une utopie ferroviaire qui a pourtant fédéré près de 15 000 sociétaires et 36 collectivités de 45 pays différents. Les difficultés économiques ont pourtant eu raison du projet. Nicolas Debézieux est directeur général de Railcop.
Il y a quand même un sentiment de fierté de ce qu'on a fait pour défendre cette idée qu'un modèle alternatif au ferroviaire était possible. L'idée de base de Railcop, c'était de sortir de ce modèle du tout TGV et d'avoir une vision beaucoup plus inclusive, d'être au plus proche des territoires, d'associer les collectivités locales qui sont regardées de façon un peu distante par les acteurs du ferroviaire, les communes, les communautés de communes, et qui pourtant sont essentielles en fait pour faire vivre l'offre ferroviaire sur les territoires. Donc c'était d'associer tous ces acteurs et donc un sentiment de fierté parce qu'on a réussi effectivement à créer cette communauté, on a réussi à être entreprise ferroviaire, à faire rouler les trains, on a eu la licence, le certificat de sécurité, donc on a passé un certain nombre d'étapes et en même temps un sentiment de frustration, on n'a pas été au bout. Il manquait, je pense, pas grand chose, il y avait quand même un certain nombre de signaux qu'on avait validés, mais on n'a pas réussi et donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté un peu de frustration sur le fait qu'on n'a pas pu achever cet engagement.
Tout autre chose, l'INSERM lance aujourd'hui une grande étude nationale sur le bien-être mental des jeunes de 11 à 24 ans.
Cette étude va regarder comment les jeunes se sentent au fil du temps pendant un an. C'est la première étude de ce genre sur la santé mentale des jeunes. Karine Chevreul, médecin spécialisée en santé publique et directrice de recherche à l'INSERM.
On n'a pas d'étude longitudinale, on a des coupes transversales, c'est une photo à un moment. Et on n'a pas une étude justement qui permet de suivre les jeunes. On va proposer à des jeunes de participer pendant un an pour essayer d'avoir la plus grosse cohorte possible. Et tous les jeunes qui vont rejoindre la cohorte On va leur poser des questions aussi pendant un an. On va essayer de les maintenir pour voir en fait comment évolue leur bien-être mental pendant un an. Et à partir de ça, notre objectif, c'est de pouvoir développer des actions, des programmes de promotion du bien-être mental ou de la santé pour les accompagner et faire que tout le monde aille le mieux possible.
Et Pierre-Hugues, les jeunes qui souhaitent participer peuvent s'inscrire sur le site de l'INSERM.
Malheureusement, moi, j'ai plus l'âge. Merci beaucoup, Lucie Rispal, pour le journal de la rédaction.